RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
'Discuter, débattre, témoigner, c'est tous les jours avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui avec Jérôme Marty, le médecin généraliste, Jean-Noël Bonamy, professeur de philosophie, et Barbara Lefebvre, enseignante d'histoire, géographie. Si on parlait vaccination, tiens, ça faisait longtemps.
RMC, les grandes gueules.
Vous ne sentirez rien, ma parole d'infirmière, elles font plutôt du bien. Mes intramusculaires, j'attaque par surprise, c'est la meilleure tactique. Vous l'attendez dans la fesse droite, et c'est la gauche que je pique. Mademoiselle Piqûre, ne plaît
Mademoiselle Piqûre, Annie Cordy. Visiblement, il y a de la lacune de la vacance dans les piqûres en ce qui concerne les enfants qui sont accueillis en crèche. Un quart ne sont pas à jour de leur vaccination.
En fait, c'est une étude de l'Association nationale des puéricultrices qui nous l'apprend. Comment cette association a-t-elle procédé? Eh bien, elle a regardé les carnets de vaccination, les carnets de santé de plus de 6700 enfants nés entre 2021 et 2024 et répartis dans 575 structures d'accueil. Elle s'est aperçue que plus d'un quart des enfants n'étaient pas à jour de leur vaccination. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons. Alors ça pose plusieurs questions. Pourquoi effectivement les parents refusent de vacciner leur enfant avec toutes les conséquences pour leur santé et la santé des autres, hein, puisqu'on parle d'enfants qui sont en collectivité. Et puis aussi le respect de la loi. Pardon, mais quand on met son enfant dans dans une crèche, a priori on doit être à jour des vaccinations. Donc on ne fait pas respecter la loi et il y a visiblement une défiance vis-à-vis de la vaccination. Comment l'expliquer?
Alors, pourquoi ne faites-vous pas tous les vaccins pour vos enfants? 3216 pour en parler avec les G. Mais si vous êtes aussi puéricultrice, comment est-ce que justement vous discutez? Comment est-ce que vous discutez avec les parents, notamment?
Mais justement, j'espère que des puéricultrices ou des puériculteurs vont nous appeler parce que je pense qu'une grande partie de ces problèmes-là sont liés aux problématiques d'encadrement.
Oui.
Vous avez dans chaque crèche une puéricultrice, en général, ou un puéricultrice, qui est référent santé et accueil inclusif, et dont le travail, une des tâches parmi les monstrueuses tâches qu'ils ont, c'est d'aller vérifier régulièrement la mise à jour du carnet de vaccination et que les enfants soient correctement vaccinés. Elles n'ont plus le temps. Le taux d'encadrement, c'est une catastrophe. Le recrutement, c'est une catastrophe. J'entendais encore il y a quelques jours le fait que dans certaines municipalités, des crèches ferment du jour au lendemain.
Il n'y a pas de personnel.
Du jour au lendemain. Oui. Les gens se retrouvent sans solution parce que les métiers ne sont pas attractifs, parce que ce sont des métiers sous-payés, alors que vous avez énormément de gens qui veulent travailler dans le soin. Dans le soin aux enfants, dans le soin aux personnes en situation de handicap. Mais regardez combien ces métiers qui sont d'une immense utilité sociale sont payés. C'est une honte. C'est des métiers qu'on devrait rémunérer à hauteur de au moins 2500 euros net par mois. C'est à peine du SMIC. Et c'est des journées à n'en plus finir. Donc moi, je vais vous dire, c'est, à mon avis, il y a plus des parents négligents que des parents anti-vax. Moi, je ne crois pas que la majorité de ces parents sont anti-vax.
Non.
C'est de la négligence. C'est, ah oui, il a eu une petite grippe, une petite bronchite, alors on a sauté le rappel, et après on n'y pense plus à revenir.
Moi, t'as aussi le généraliste, normalement, tu reçois aussi des SMS de rappel, etc., n'oubliez pas.
Oui, mais regardez l'état de la PMI, Moi, quand on était petits, nous, on pouvait être vacciné à l'école
été vacciné à l'école.
Ben voilà, comment se fait-il? Ben parce qu'il n'y a plus d'infirmières scolaires.
Ben, y a plus personne.
Parce qu'il n'y a plus d'infirmières dans les crèches. Normalement, à la crèche, ce serait facile. Il y aurait le passage une fois par semaine d'une infirmière, clic-clac, elle vaccine les gamins et voilà, c'est fait. Non, il faut passer par le docteur, faut ci, faut là. C'est vraiment hallucinant, tous ces problèmes, alors que c'est essentiel, la couverture vaccinale des enfants. Moi, ma fille, à l'époque, les 11 n'étaient même pas encore obligatoires. Je lui avais fait les 11 vaccins, compris la méningite, etc.
Jérôme, si je te demande les 11, tu les connais ou pas?
Bien sûr. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influencé, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, méningocoque, pneumocoque.
Voilà. Il est médecin quand même.
Ça pourrait se passer.
Pas récité si vite, mais j'aurais pu le réciter.
Non, mais.
On a la chance d'être
dans un pays qui finance tout ça.
Oui.
On a la chance d'être dans un pays qui met à disposition tout ça. Et tout ça, ce sont des vaccins qui permettent d'éradiquer, j'insiste bien sur le mot, d'éradiquer des pathologies qui sont extrêmement dangereuses. On a malheureusement trop de cas de méningite. La méningite, elle est liée au méningocoque, elle est liée au pneumocoque, elle est liée à l'hémophilus influencé. On a des virus contre cela. On a des enfants qui meurent de méningite chaque année. On a la rougeole qui commence à réapparaître, qui est extrêmement contagieuse, qui a des conséquences dramatiques sur les adultes souvent.
Bien sûr.
On n'y pense pas assez. Donc il faut faire vacciner ces enfants, c'est une évidence. Maintenant, ce que l'on voit là,
comment expliquer parce
c'est, que la c'est une triple conséquence.
C'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de personnel. Moi,
non, parce qu'on a ouvert, on a les infirmières qui vaccinent, on a les médecins, etc. Mais il y a effectivement de la négligence. Souvent des parents avec une vie qui se fait à 100 à l'heure, avec un clou qui chasse l'autre, comme on dit, un problème qui chasse l'autre.
Il peut y avoir une nonchalance
par rapport à ça, mais cette nonchalance et cette négligence, elle est installée par le fait que nous avons, et je le dis régulièrement ici, nous avons totalement abandonné la politique de santé publique dans ce pays et de prévention. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'explication. Tu ne vois pas à la télé des grands messages sur la vaccination pour les enfants, etc. Il n'y a pas d'explication simple autour de ça. Il n'y a rien. On a tout. Et alors, tu prends les IST, les infections sexuellement transmissibles, c'est pire. Nous sommes en train de voir réapparaître la syphilis qui avait complètement disparu depuis des années. Et là, on voit de façon tout à fait régulière des cas de syphilis, des cas de gonococcie, des cas de chlamydia, etc. On en voit partout.
Oui, mais Jérôme, je suis d'accord, manque de prévention, manque de personnel. Moi, je pense qu'il y a un courant anti-vax très fort, notamment depuis le Covid. Je me souviens aussi quand le caractère obligatoire avait été décrété par Madame Buzyn, alors ministre de la Santé au gouvernement de l'époque. Les 11 vaccins obligatoires, ça avait aussi braqué une partie des Français. Je me souviens, on avait fait le débat ici même au 32-16 et beaucoup disent, puisque c'est obligatoire, on nous impose. Et puis le chiffre de 11, même si c'est pas 11 injections, puisque plusieurs vaccins sont injectés avec la même... Mais ça a fait peur. Derrière le Covid, le débat sur les vaccins, etc. Moi, je pense que tout ça a fait en sorte, et les réseaux sociaux, fait en sorte qu'il y a quand même un courant assez fort anti-vax et qui explique aussi cette défiance.
Agnès Buzyn avait eu cette phrase magnifique et très orwellienne qu'on avait relevée avec mon ami Christian Lehmann à l'époque, qui était de dire l'obligation crée la confiance. Ce qui fait quand même la guerre, c'est la paix, etc. Et l'obligation crée la confiance. C'était très curieux comme truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'histoire de l'obligation vaccinale des 11 vaccins, la commission qui, à l'époque, présidait cela avait voté contre. Et le gouvernement était passé en force en disant il faut obliger les gosses. Mais je pense pas que ça ait eu des conséquences sur la baisse de la vaccination parce qu'on n'a pas assisté. Par contre, on a là un écrêtement, mais qui, à mon avis, est plus en lien avec le fait qu'on a abandonné la politique de santé publique. Et la deuxième lien, c'est la difficulté qu'ont les gens à aller chez un médecin. Je vous rappelle quand même que vous avez 6 millions à 7 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant dans ce pays.
Jean-Loup, mon ami.
Oui, moi je suis pro-vaccin parce que je suis de Besançon et j'ai fait toutes mes études au lycée Pasteur, qui avait fait lui-même ses études à cet endroit. C'est un peu l'une des grandes personnalités de la région. Il est, je crois, de loi jurassien. Il a fait ses études à Besançon. Donc évidemment, voilà. Je crois d'ailleurs que Christian Clavier, lui aussi, avait fait ses études au lycée Pasteur, mais de Neuilly. Moi, j'ai fait mes études au lycée Pasteur, mais de Besançon, plus modestement. Et par contre, de manière plus tragique, je rappelle que quand les Européens ont découvert le continent américain, donc Christophe Colomb et la suite, tu as eu 90% des populations amérindiennes du continent américain qui sont mortes. Et voilà, tu as 9 Amérindiens sur 10 sont morts. Et ils sont morts de quoi ? Du choc bactériologique, parce que, et notamment de la rougeole, en fait. Ils ont été tués par la rougeole parce que ils y étaient, c'était une maladie qu'ils ne connaissaient pas. Leur système immunitaire n'était pas prêt. Et ça a tué un peu la variole et surtout la rougeole. Ça a tué 9 Amérindiens, 9 autochtones sur 10. Donc, en fait, on a l'impression, moi je pense aussi, il y a un sentiment de la rougeole, les oreillons. Oui. C'est des maladies infantiles qui sont... qui finalement c'est banal. Pas si grave, qui sont banales, exactement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout si banal.
La rougeole
que ça
revient très fort. Hein.
Voilà, la rougeole revient très fort. Elle peut avoir, le docteur le confirmera éventuellement, des conséquences graves.
Oui,
tout à fait. Et très
si
grave.
Si j'ai un conseil à vous donner aussi, quand vous êtes un garçon, c'est de pas attraper les oreillons à 20 ou 30 ans.
Ah bah sinon c'est fini, vous pouvez plus vous reproduire.
Voilà. Donc la rougeole ou les oreillons, ce ne sont pas des maladies bénignes. C'est pas juste j'ai des petits points rouges sur le visage. Après sur les causes, je pense que Barbara parfaitement et Jérôme ont parfaitement expliqué les choses sur en fait l'effondrement de la politique de santé publique en France, puisque tout s'effondre en France. Donc la politique la politique de santé publique et de prévention aussi, l'encadrement sanitaire des enfants aussi, et ça serait intéressant par contre d'autre part de voir aussi les courants idéologiques anti-vaccinaux pour voir s'ils jouent un rôle ou
nos grands-parents nos parents étaient mieux vaccinés que nos enfants aujourd'hui. Oui. Et je vais vous dire, alors, il y en a peut-être que ça a choqué, mais dans les colonies, comme dirait l'autre, ça vaccinait à fond les ballons aussi. Mais je suis sûre que maintenant, même les médecins sans frontières, etc., n'arrivent plus à avoir les mêmes activités de couverture vaccinale qu'on l'avait il y a encore un siècle. C'est-à-dire que ça se débine de partout. Donc, moi, je ne comprends pas. Quand on était enfant, à l'école, aujourd'hui, c'est quand vrai, vous avez vacciné. Un enfant, il n'y a plus aucune visite médicale.
On va en parler avec Greg.
Plus rien. C'est la catastrophe. Et je suis sûre que j'ai des élèves qui ne sont pas à jour de leur vaccin, sur la en particulier le DTP.
Alors, dans ton école, tu as une infirmière
scolaire. Mais non, l'infirmière, elle est là une demi-journée par semaine. Qu'est-ce que vous voulez faire une demi-journée par semaine? Les gamins, les gamines, quand elles ont mal au ventre parce qu'elles ont leurs règles ou un truc ou quoi, elles sont obligées de rester en classe. Il n'y a même pas une infirmerie ouverte pour aller s'allonger. C'est vraiment
catastrophique. Greg, bonjour.
Il y a des PMI.
Bonjour,
enfin, oui.
Bonjour Greg. Vous êtes chef de projet, vous êtes dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, deux enfants.
Est-ce que vos enfants sont à jour dans les vaccinations?
Alors, j'ai le grand qui a 5 ans et qui est en moyenne section, donc en maternelle, qui est bien à jour de la vaccination. Et sans quoi même, d'ailleurs, quand on fait l'inscription en maternelle, faut que les vaccins soient à jour, sinon, sinon on n'est pas conforme. Mais donc, ça pose problème derrière. Par contre, j'ai la plus petite qui est née en 2023, qui a aujourd'hui 18 mois. Effectivement, où là, alors, on n'est pas à jour. Mais ça s'explique, c'est que donc les premiers vaccins, elle était à jour. Et ensuite, elle a commencé la crèche, donc en octobre. Et de quasiment octobre jusqu'à février, elle est malade. Et donc la pédiatre refuse toute vaccination. En fait, elle nous reporte, ça décale. Et effectivement, c'est Barbara qui le disait tout à l'heure, je crois. Ensuite, il y a de la négligence parce qu'une fois qu'on passe ces 2-3 mois de maladie, qu'on peut de nouveau faire vacciner, bah on retarde l'échéance, on va pas forcément chez le médecin. On sort de 3 mois où toutes les semaines on est chez le pédiatre pour d'autres problèmes. Et donc, quand l'enfant va mieux, on n'a qu'une envie, c'est de pas aller chez le pédiatre.
Voilà, donc, d'où l'intérêt qu'une infirmière à la crèche, quand votre enfant va bien, fasse la vaccination au lieu d'aller chez le médecin traitant.
Ça, je suis d'accord. Et je vous rejoins sur le fait aussi que les puéricultrices sont aussi débordées. Et c'est ce qui aussi amplifie le côté des maladies dans les collectivités, parce que ne serait-ce que nettoyer le nez d'un enfant, elles n'ont pas le temps. C'est tout bête, mais en fait elles sont débordées également, elles n'ont pas le temps. Moi, mes deux enfants étaient à la crèche en collectivité, bronchiolite à répétition, etc. Bon, effectivement, on nous dit que pour plus tard c'est bien, c'est la meilleure, ils développent l'immunité, donc tant mieux. Mais c'est vrai que pour les puéricultrices, et en tout cas les personnes qui travaillent au sein de la crèche, c'est pas évident.
Mais le personnel,
c'est pas de l'anti-vax, par exemple.
Moi, le personnel sanitaire des crèches s'effondre de la même façon que tu as plus de médecin scolaire, tu as plus de médecin du travail.
Et effectivement, que ce soit moi à l'école de mon fils ou à la crèche, le côté infirmerie n'existe pas. Après, par exemple, l'encadrement des crèches, souvent il y a du personnel infirmier, malgré tout. Moi, la directrice de ma crèche est infirmière de métier.
D'accord. Greg, on reste avec nous pour écouter Nicolas qui nous appelle de l'Essonne. Oui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez entendu, hein, Greg dit c'est pas de l'antivax, c'est simplement une question de délai, puis les enfants qui retombent malades, etc. Oui. Et vous Nicolas, vous avez des enfants?
Oui, un.
Un. Et il est à jour des vaccins?
C'est très compliqué, c'est très 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 compliqué en fait. On n'est pas à jour parce qu'on n'arrive pas à trouver de créneau avec les médecins en fait.
Ah bon?
Moi, par exemple, j'avais une pédiatre, malheureusement, elle prenait des rendez-vous que le lundi et le vendredi. Question d'organisation avec le travail, c'était très compliqué parce qu'à 17h, elle ne prenait plus de rendez-vous. Donc, on n'arrivait pas à s'organiser. Et en fait, moi, j'habite un petit peu une campagne. On n'a pas de médecin traitant rattaché. Nous, personnellement, on n'arrive pas à en trouver depuis qu'on a déménagé. Et du coup, on se bat pour trouver un médecin. Et en fait, le souci à chaque fois, c'est de trouver le médecin, en fait. C'est que on se retrouve avec des délais très conséquents pour pouvoir faire vacciner les enfants.
Qu'est-ce que vous appelez délais très conséquents, Nicolas?
C'est la France de 2024.
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Qu'appelez-vous délais très conséquents, Nicolas?
J'appelle délais très conséquents quand on appelle un secrétariat pour dire que c'est un vaccin pour un enfant. Soit on n'est pas, soit il n'y a pas de place, soit on nous dit ouais, mais vous n'êtes pas suivi par le médecin.
Vous n'avez pas été voir une PMI?
Oh, j'ai déjà, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'ai contacté la caisse de, la sécurité sociale en fait pour avoir un médecin traitant rattaché. Ils m'ont répondu par mail 3 mois après qu'ils trouvaient rien dans ma zone.
Vous habitez où?
J'habite à Étampes dans 91.
Ah oui.
Mais le problème, je pense vraiment que moi je vois au sein de ma crèche, ils savent qu'en fait, on n'arrive pas à en trouver. Donc, ils ferment un peu les yeux là-dessus parce qu'ils se disent, mais en fait, les parents, ils arrivent, c'est fou, ça, l'organisation, ils n'arrivent pas à trouver de médecin.
Donc là, aujourd'hui, on voit bien que les 25% qui ne sont pas vaccinés, c'est pas de l'antivax ou alors non, c'est epsilonnex.
La difficulté,
c'est vrai,
dire,
voilà, c'est juste
7 millions de Français, 7 millions de Français qui n'ont pas le médecin traitant.
Question de délai, de carence.
Je prends cet exemple régulièrement. Je vous rappelle qu'une ville comme Montauban, ça fait 5 ans à 6 ans que tous les nouveaux arrivants de Montauban ne trouvent pas de médecin.
Ouais.
Et ça, puis, parce qu'il y en a plein qui ont déblaqué, qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés, et le système ne fait que s'aggraver.
Allez-y, Nicolas.
Et au sein de Macré, je vois, moi, il y a une infirmière. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est très administratif. En fait, si vous n'avez pas d'ordonnance, de choses comme ça, ils ne peuvent rien donner à votre enfant.
Et c'est là qu'on reste perplexe. Parce que quand nous, on était petits, enfin, moi, je suis née en 72, donc voilà, je ne suis pas née en 1914 quand même. En 72, il n'y avait pas besoin d'une ordonnance. On faisait la visite médicale, je m'en rappelle encore, en primaire. Mmh. On flippait tous d'être piqués, alors qu'on était à jour des vaccins. Il y en avait toujours un ou deux qui était passé entre les gouttes, il se faisait vacciner devant toi. Il n'y avait pas d'ordonnance. Ouais, l'infirmière scolaire, elle avait les vaccins dans l'armoire, clic-clac, elle ouvrait son frigo, et clic, il y passait.
Je me souviens, on passait, comme Olivier et moi, on est presque de la même génération.
Ouais, j'étais beaucoup plus vieux.
On passait sous la toise.
On nous mesurait,
On passait sous la toise, on nous pesait.
On nous regardait le slip.
Je me souviens des palpations derrière les oreilles.
Ouais,
on nous faisait faire le cou comme ça, la tête.
Les yeux même, on faisait même les yeux.
Et le slip, hop, on tirait et on regardait ce qui se passait.
Ouais.
Bien sûr, le CIP.
Ah non,
le médecin regardait.
On le fait, ça. Oui,
bien sûr. Bien sûr. Pour voir si les coquillettes
étaient bien
là.
Il y avait un grand moment de récupération de vaccination chez les jeunes garçons qui n'existent plus. C'était l'armée aussi. Hein.
Oui.
L'armée, on me vaccinait. Il y avait
je suis d'accord, parce que moi, je me souviens, pendant mon service militaire, je me suis remis à jour grâce...
Moi, j'ai juste une question. Alors, une question très simple, c'est j'aimerais savoir que font comme métier dans la vie les Français. Parce que infirmière scolaire, on n'en trouve plus. Puéricultrice, ça n'arrive pas à recruter. Prof, c'est la catastrophe, on trouve personne. Restaurateur, ça ne va pas. Les boucheries, charcuteries, on ne trouve personne, etc., etc. Du coup, je me demande...
Ils sont chefs de projet.
Voilà. Ce que font les gens comme métier.
La France des chefs de projet.
Ce que font les gens comme métier dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font comme métier dans la vie ?
Greg, Nicolas, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience familiale avec les GG. Merci, messieurs. Bonne journée, Greg. Bonne journée, Nicolas. À bientôt dans les grandes gueules. On a posé consultation, tiens. C'est la consultation GG. On a posé la question à un quart des enfants en crèche qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que ça vous choque ? C'est quand même un oui à 65%.
Mais non, 35% quand même. C'est
donc
énorme.
Moi je vous dis qu'il y a un sentiment aussi anti-vax. Oui, c'est pas exprimé au 32-16, mais qui existe. Je pense que d'ailleurs les anti-vax hésitent à appeler pour nous dire qu'ils sont contre les vaccins.
C'est bien de quoi c'est le résultat. Mais c'est aussi le résultat du discours vaccinal délirant qu'on a subi avec Véran et compagnie.
Peut-être,
et pourtant, je suis pour les vaccins, mais eux, c'est tout juste s'ils m'avaient pas vacciné.
Quand c'est les petits qui s'en mêlent, ça
devient... Barbara, tu peux pas dire, on va pas avoir le dire. Il faudra qu'on ait un débat là-dessus un jour, mais c'est surtout le discours du prosélytisme anti-vax qui a eu lieu et des plateaux qu'on leur a ouverts avec un discours délirant qu'on a laissé passer.
Mais le discours délirant en face, il n'était pas mieux non plus. Et en plus, avec leur passe sanitaire, c'était le pompon.
C'est promis, on refera ce face-à-face, Jérôme Marti, Barbara Lefebvre, un de ces jours. Est-ce que vous êtes vacciné contre les prises de parole du président de la République ?
Oh oui, j'ai fait mon rappel.
Voilà, et bien justement, tu en auras une. Qui revient. Toi, t'es peut-être à jour, mais le chef de l'État, il t'en remet une dose après-demain.
Il y a eu 11 interventions d'Emmanuel Macron depuis 10 jours, c'est ça.
Après-demain, jeudi 11 vaccins. Est-ce qu'il peut y avoir un effet Macron aux européennes, mobiliser ses troupes
Oui, il va y avoir un effet Macron.
Pousser vers aller à la pêche, à tout de suite au 32-16.
Un effet indésirable.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie, Jean-Loup Bonamy, enseignant philosophie, et puis nous sommes avec Jérôme Marti, médecin généraliste. Le président de la République, vous savez, va parler à la télé jeudi, mais d'ici jeudi, il va parler déjà.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce qu'il y a la prise de parole jeudi sur TF1 et sur France 2, mais le chef de l'État aujourd'hui va s'adresser sur Internet aux jeunes via un média qui s'appelle Le Crayon, qui est dirigé par Valérian Mouliberto, qui a un temps été avec nous dans les GG. Petit extrait.
Comment vous expliquez ce décalage justement entre l'engagement pour des causes
et... Je pense qu'il y a ce paradoxe un peu dans la société où on vit qui se dépolitise. Le chiffre est important pour les jeunes, mais il est vrai en général. Il y a 5 ans, on avait réussi à réduire de manière historique l'abstention pour des européennes, mais tendanciellement dans toutes les démocraties l'abstention est élevée. C'est pas une bonne chose du tout.
Le danger est trop grand.
Le danger est énorme. Le danger est énorme parce que c'est le moment où tout se joue et on est plus fort ensemble. C'est pas compliqué. Quand vous êtes à un moment où la loi du plus fort reprend, est-ce que vous pensez que vous le défendez mieux en étant strictement français ou en étant français européen? Moi, j'ai une réponse simple. En étant français européen. Parce qu'on est plus fort ensemble.
Voilà, Emmanuel Macron veut pousser surtout les jeunes à aller voter face au danger de dislocation de l'Europe qui menace.
Oui, ça c'est intéressant, il s'adresse aux jeunes. Or, Emmanuel Macron est essentiellement élu par les personnes âgées. Et d'ailleurs, oui. Dans les derniers sondages, ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a plus que les personnes âgées, entre guillemets, qui croient encore au macronisme. Tous les autres lui ont tourné le dos, et particulièrement les jeunes. Les jeunes votent plutôt insoumis ou Rassemblement National, plutôt une offre radicale. Je dirais, quand on est jeune, on est plus... voilà. Mais donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui est pourtant le plus jeune président de la République, qui a nommé à Matignon le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, est quelqu'un qui ne parle pas aux jeunes. Et quand il dit des phrases assez banales en disant l'Europe, etc., bon, je suis pas convaincu que c'est ça aujourd'hui qui va mobiliser les jeunes, qui va surtout réconcilier une partie de la jeunesse avec l'offre politique. Et parce que là aussi, l'autre paradoxe, il dit oui, on avait quand même réussi aux européennes à faire voter, mais enfin, c'est sous Emmanuel Macron qu'on a battu les records d'abstention pour des présidentielles. Les présidentielles étaient pourtant encore une élection qui mobilisait. Bah, la dernière présidentielle a finalement assez peu mobilisé. Je parle pas des législatives qui ont suivi.
Alors, nous sommes avec Valéran Moulet-Berthaud. Bonjour Valéran.
Salut Gigi, comment ça va?
Ça va, merci d'être avec nous Valéran. Donc c'est essentiellement une interview pour mobiliser la jeunesse, le président de la République, l'entretien qui t'a accordé.
Mobiliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, je pense que c'est surtout un bon point d'étape avant les européennes, mais on a essayé, comme toujours avec le crayon, de faire une émission de fond qui dépasse un peu le cadre toujours de l'actualité brûlante. Évidemment que c'était obligatoire de revenir sur les grandes actualités qui se passent, donc la géopolitique, l'Europe, la démocratie, mais on a essayé de pousser des questions de fond parce que il sera encore président jusqu'en 2027, et donc le but c'était aussi de pouvoir tracer une tendance à ce moment-là, et aussi de pouvoir revenir sur un sujet de fond qui était celui qui nous intéressait beaucoup là, qui était ce qu'on nous on appelle vulgairement la fracture générationnelle, et c'est celle où en fait on se dit que entre ceux qui sont nés avec Internet et ceux qui sont pas nés avec Internet, on voit de plus en plus des lignes de fracture se créer sur différents sujets, et c'était sur ces différents sujets qu'on a voulu revenir.
L'interview a duré combien de temps avec le président de la République, Valéran?
On est à un peu moins de 30 minutes, je crois qu'on est à 25 minutes, quelque chose comme ça.
Et elle sera diffusée quand, à quelle heure, pour ceux qui veulent la voir?
C'est à 18h sur la chaîne YouTube du Crayon, donc le Crayon comme un crayon bavier. Et en fait, on a vraiment voulu poser des questions de fond. Donc évidemment que le Crayon fait du débat, donc on aurait rêvé d'avoir un débat. Mais bon, malheureusement, dès qu'on touche à des chefs de parti ou au président de la République, au Premier ministre, c'est toujours beaucoup plus difficile. Donc on a essayé d'apporter la contradiction du mieux qu'on a pu.
D'accord. Jean-Loup, un petit mot là-dessus sur est-ce que le président peut attirer les jeunes, pousser les jeunes à aller voter? Jean-Loup Bonamy, professeur.
Bien sûr que non, ça ne va pas attirer les jeunes. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, il vaut mieux.
Il faudrait faire quoi pour attirer les jeunes? Pour leur dire d'aller voter?
Je sais pas, peut-être faire une autre politique qui soit moins justement défavorable aux intérêts du pays et donc aux intérêts des jeunes. Voilà, tout simplement. Ça serait une meilleure solution que et d'ailleurs
on a même accusé Emmanuel Macron de d'avoir toujours été plutôt en faveur des retraités, aussi bien sur le pouvoir d'achat que sur la réforme des retraites. D'ailleurs, n'était approuvée que par les retraités, ceux qui n'étaient pas concernés directement, puisqu'ils sont déjà à la retraite. Et peut-être donc plutôt favoriser son électorat au détriment
Emmanuel
des jeunes.
Emmanuel Macron, c'est l'homme qui a été au bout d'un processus déjà entamé par ses prédécesseurs, qui est celui du déclassement des classes moyennes. Or, les jeunes voient quoi? Ils voient leurs parents déclassés d'un point de vue social, et ils voient leur perspective d'avenir à eux. Également obéré et mise en danger par les choix politiques et les choix économiques de la Macronie, dans le cadre en plus d'une concurrence mondialisée qui est absolument féroce. Donc encore une fois, moi je n'accable pas Monsieur Macron de tous les maux, je dis juste qu'il a considérablement aggravé des phénomènes qui étaient déjà sous-jacents, et en particulier celui du déclassement. Donc les jeunes, ils sont pas aveugles, ils sont pas débiles, ils regardent autour d'eux, et en particulier les jeunes des milieux populaires qui se rendent compte que par l'école, par l'effort, par le mérite, on n'y arrive même plus, on n'arrive même plus à cette ascension sociale qui nous est promise par la République. Donc Monsieur Macron, il a trahi cet idéal républicain-là. Il se tourne donc vers des partis qui leur promettent le retour à cet idéal républicain. c'est peut-être des vaines promesses. Ça, comme dirait l'autre, on le sait que quand on les voit au pied du mur, c'est là qu'on voit le travail du maçon. En tout cas, le travail du maçon Macron, c'est une catastrophe pour l'instant.
Vas-y, Valorant.
Si tu me permets une remarque là-dessus, Macron a quand même eu un impact énorme sur la politique parce qu'il a réellement réorganisé la manière dont se faisait la politique. On est passé d'un fonctionnement à biparti à un fonctionnement à tripartite qui est en fait simplement le fait de la République en marche et maintenant Renaissance. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans les sondages, c'est la France Insoumise et le RN qui sont les partis.
Et c'est l'extrême centre.
Et exactement, mais donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est
que. Oui, mais les jeunes se tournent vers le RN et les Insoumis.
Oui, mais Louis, Valorant, c'est parce que la jeunesse ne connaît pas bien Louis-Philippe et la monarchie de Juillet. C'est pas vraiment ce qui fait rêver. Or, Emmanuel Macron, c'est Louis-Philippe et la monarchie de Juillet. Donc les Français, ils veulent autre chose. Le centre extrême qui parfois sait se montrer un peu dur et fait montrer les muscles, mais qui au fond travaille avec la bonne bourgeoisie des banques et des finances et des assureurs et de l'industrie. C'est exactement ce que faisait Louis-Philippe comme politique. Ça n'attire pas les jeunes, je suis désolé.
Mais tu vois,
c'est sûr, mais les politiques aujourd'hui n'attirent pas les jeunes dans leur globalité.
Le RN et les LFI attirent les jeunes.
Il y a un problème quand même de reconnaissance et d'incarnation, quoi. Le problème, il n'y a pas d'incarnation aujourd'hui. Je veux dire, dans qui peuvent se reconnaître les jeunes, véritablement, si tu veux.
Et pourtant, on a un jeune Premier ministre. Gabriel Attal pourrait être un modèle.
On a un parti.
Oui, mais c'est l'idole des vieux.
Le RN, oui. Quoi qu'on en dise actuellement, reste un parti pour lequel on vote quand on veut contester. Il y a une part de fond, mais c'est surtout la contestation. Aujourd'hui, Bardella, quand il se présente, il pourrait dire « je vends une 404 », truc, et les gens trouvaient ça très bien. On est plus sur la forme que sur le fond. Une 404, tu vois le boomer, quoi, ouais. La 404.
La forme,
après, la LFI, elle n'existe plus, elle est atomisée, elle est bombardée. La NUPES n'est pas ce qu'elle n'est plus.
Tu parles de toi.
Aujourd'hui,
Tu parles aux jeunes autour de toi. Déjà, ils sont effectivement beaucoup sur des sujets. Ils sont beaucoup sur des sujets climat pour une bonne partie, pas tous. Oui. Mais et donc ceux-là, ils vont pas voter Macron. Ils vont plutôt voter à gauche ou écologiste. Et puis il y a aussi certains qui estiment effectivement que il y a un déclassement, que ils sont pas reconnus, que c'est compliqué, que pour eux la vie sera plus compliquée que pour leurs parents, même s'ils travaillent, même s'ils gagnent. Et ces gens-là se tournent plutôt vers le RN. Et pardon, mais l'offre centriste avec quand même des éléments de langage. Pardon, Valérant, mais ce qu'il vient de dire dans l'extrait, on entend Emmanuel Macron, on est quand même un peu dans des éléments un peu bateaux. Enfin, c'est des poncifs. C'est des poncifs.
Oui.
Je suis pas convaincu. Aujourd'hui, tu vas mobiliser les jeunes sur des poncifs. Dire qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Bon, d'accord.
Attends que Valérant réponde. Vas-y.
Alors, deux points. Je vais y aller point par point. Mais le premier point, c'est sur ce sur quoi se tournent les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se tournent vers eux-mêmes. En fait, c'est surtout ça le truc.
Aussi, c'est vrai, raison.
Quand on regarde l'abstention, en fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est de regarder l'abstention d'un côté et le pouvoir d'un Squeezie de l'autre. Je pense que c'est hyper intéressant de mesurer ça.
Oui.
Aujourd'hui, les jeunes de génération font confiance en Squeezie. Mais sincèrement, c'est pas. On parle beaucoup de relations parasociales. C'est une confiance qui est sincère, qui est méritée d'ailleurs, parce qu'il s'est beaucoup battu pour sa transparence. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que surtout les jeunes ne se reconnaissent pas dans les politiciens. Et je pense que ça, c'est global. Ouais. Et quand on a vu le débat entre Bardella et Attal, je trouve que ça a sauté aux yeux.
C'est un débat de vieux.
D'accord, mais sauf que Valorant...
Non,
attends, juste un point. Excuse-moi, Valorant, mais les influenceurs ne sont pas au service de l'intérêt général. Les influenceurs sont soit des placeurs de produits discrets ou moins discrets, et soit des gens qui ont besoin de clics pour se faire un salaire, parce que sinon, ils n'en ont pas.
Si,
ils ne sont pas au service de l'intérêt général.
Là où Valorant a raison, c'est qu'on n'a pas su renouveler la politique. Le macronisme est une escroquerie. On n'a pas su renouveler les politiques. Et c'est pour ça que les jeunes... De la même façon que les jeunes ont zappé la télévision pour passer à autre chose, ils zappent les politiques pour passer à autre chose. Le monde politique n'a pas su se renouveler.
Oui. Mais ça veut dire
c'est une espèce de monde qui est un monde qui apparaît archaïque. D'accord. Dans son formalisme.
Mais ils se feront avoir pareil.
Tu as des débats l'autre jour, on l'a vu, tu le disais, entre Attal et Bardella, qui sont deux jeunes, mais qui parlent comme des vieux.
D'accord.
Avec un débat qui apparaît totalement.
Au final, le résultat, là, c'est qu'ils se font avoir aussi. Parce que c'est pas avec un influenceur qu'ils vont mieux comprendre le monde.
Non, mais pourquoi
tu vois les âneries que disent en ce moment les influenceurs sur l'élection internationale?
Je suis pas d'accord avec Squeezie, par exemple. C'est pas des âneries, Squeezie.
Hugo décrypte. Historiquement, une fois sur deux, il raconte n'importe quoi et il y a des biais idéologiques et politiques très nets. Sauf que les gamins qui regardent Hugo décrypte ne savent pas le sous-texte de Hugo décrypte.
Attends, juste une phrase. Le problème, c'est que les intérêts des vieux ne sont pas les intérêts des jeunes, ils sont même opposés. C'est-à-dire que si tu fais une politique qui est directement dirigée vers ce que veulent les jeunes, c'est-à-dire notamment vers le combat sur le choc, contre le choc climatique, etc., tu vas t'opposer, les vieux. Alors, et comme les vieux, c'est tes électeurs, tu le fais pas.
Moi, je vais faire une remarque. Oui. En tant que professeur de lycée, ayant des élèves d'ailleurs de tous milieux et de toutes origines, je constate en fait le très peu d'intérêt pour les questions climatiques chez la masse des jeunes. Voilà, honnêtement, mais je constate que mes élèves ne s'intéressent pas à cette question,
Valorant,
ni dans un sens, ni dans l'autre.
Justement, Valorant,
voilà, que vraiment, ça ne les empêche pas de dormir.
Pour conclure, est-ce que tu sens, parce que il y a la demi-heure d'interview avec le président que tu vas diffuser ce soir à 18h sur le Média Le Crayon, mais vous avez discuté un petit peu, est-ce que tu sens qu'il est en phase avec la nouvelle génération, avec la jeunesse, ou pas, Valorant?
Moi, je pense qu'il est curieux. Je pense qu'il est très curieux et qu'il l'a montré plusieurs fois. Il a été chez Hugo décrypte assez tôt dans son parcours présidentiel. Il avait fait une vidéo très contestée, mais il avait quand même fait avec Carlito pendant le Covid. Donc, je pense qu'il est quand même très curieux du sujet. En revanche, je pense que lui a toujours voulu être dans une stature un peu gaulliste, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée et encore plus au-dessus de sujets de jeunes qui sont toujours un peu radicaux. En revanche, ce que je trouve dommage, ce n'est pas que le parti d'Emmanuel Macron, c'est tous les partis, c'est qu'en fait, pour le coup, tout ce qui va toucher à la jeunesse est très caricaturé. On parle toujours de climat, mais effectivement, le climat, ça nous inquiète tous beaucoup, mais ça inquiète effectivement une grosse partie, surtout bruyante, de la jeunesse. Il y a des sujets de précarité qui sont quand même des sujets principaux dont j'entends quasiment jamais parler, et il y a des sujets surtout de futur professionnel, qui sont des sujets qui ont été réservés aujourd'hui quasiment aux grandes entreprises et aux start-up, en fait. Et
l'intelligence artificielle.
Merci, Valorant. Donc, ce soir, 18h, hein, sur Internet, le Média Le Crayon.
Et je dis rebelote. Moi, je suis désolée. Il engage sa responsabilité. Emmanuel Macron intervient et il engage sa responsabilité après l'échec du 9 juin. Il ne peut pas autant parler, autant s'immiscer dans la campagne et ne pas engager sa responsabilité.
Et pourtant, il ne se passera rien.
Barbara. Voilà, encore une fois, la démocratie est bafouée.
Le 10 juin, tu seras déçu. Mais il ne se passera rien.
Un autre fondement du macronisme, c'est le passage en force et le mépris. Justement, il a fait une élection nationale.
Moi, je ne pense pas que c'est le mépris.
Il ne se passera rien derrière.
Je pense que c'est plus
pour enfoncer un peu plus le RN en disant, voyez, effectivement, j'ai perdu l'élection, mais je ne ferai rien parce que je reste maître du temps. N'oubliez pas ça.
Je pense pas que c'est du mépris.
C'est le maître des horloges.
C'est fini. Il est élu pour ça. Pour 5 ans, il n'a pas été élu pour 3 ans.
On a évoqué là ce que nous a dit Valorant, les questions écologiques qui intéressent la jeunesse. Justement, on va s'intéresser à l'écologie. 4,5 milliards de voyageurs les 4,5 milliards de voyageurs depuis la pandémie, vous savez, sur l'avion. Aujourd'hui, le transport aérien bat tous les records de passagers. On a dépassé les 5 milliards, chiffre d'affaires de 1 000 milliards de dollars de bénéfices, de chiffre d'affaires pour l'avion. Alors, c'est bon pour le tourisme, c'est pas bon pour la planète. Est-ce qu'il faut limiter les trajets en avion? 32-16 pour venir en parler avec les GG. Oui, 10 Jean-Loup et Barbara. Non pour Jérôme et Olivier.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est Story, les grandes gueules avec vous, bien sûr, au 32-16, avec Jean-Loup Bonamy, avec Barbara Lefebvre, avec Jérôme Marty. Parlons avion.
RMC.
GG, 7 et match.
Ladies and gentlemen, this is Captain qui parle to you. PNC aux portes, armement des toboggans.
Pollution. Je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Le transport aérien, c'est des inconnus, vous avez reconnu. Le transport aérien va réaliser un chiffre d'affaires record de près de 1 000 milliards de dollars en 2024. 5 milliards de passagers. Alors, c'est un vrai défi écologique aujourd'hui, l'avion. Pourquoi? Parce que l'avion ne représente que 3% des émissions mondiales de CO2 environ, bien loin derrière l'automobile, sauf que 90% des gens dans le monde ne prennent pas l'avion. Donc on est face à presque un luxe aujourd'hui au fait de prendre l'avion. Mais ça s'est démocratisé. Donc il y a deux options. Soit l'avion, on limite avec le prix, soit on limite par les quantités de trajets. Alors, est-ce qu'il faut limiter les quantités de trajets en avion? On va vous faire un petit GG 7 et match sprint de 10 minutes. Vous venez en parler avec nous. Décollage immédiat avec l'équipe qui dit oui, il faut limiter Jean-Loup et Barbara. Face au tandem des deux stew, là, des deux stewards, Marty et Truchot
qui PNC disent, aux portes.
Qui disent non. Alors, Barbara, Jean-Loup, tu nous dis oui, pourquoi? Vas-y, 60 secondes, go.
Ok, je prends la minute. Bah, c'est vraiment pas facile puisque quand ce matin on m'a demandé si j'étais pour le oui ou pour le non, j'ai hésité pour la réponse et j'aurais pu répondre aussi bien oui que non.
Appelle
donc,
ça
appelle
Gabriel Attal, Barbara.
Appelle Gabriel Attal. Je termine. Donc, j'étais.
Est-ce que tu veux qu'Attal vienne?
Voilà, Attal peut venir si tu veux. Mais déjà, ce qui intéressant, c'est de voir justement, comme le rappelait Alain, le décalage. C'est comme tu en parles énormément chaque année des vacances au sport d'hiver, il y a que 5% des Français qui vont faire du ski. Là, c'est pareil, t'as que 10% des humains de la planète qui prennent l'avion. Donc t'as vraiment des distorsions énormes. Deuxièmement, moi je ne suis pas du tout pour interdire, supprimer ou réduire drastiquement le nombre d'avions, d'autant plus que je suis allé à Nice ce samedi avec où Alain Marchal est une véritable star et que j'envisage d'aller bientôt à Nîmes avec un bilan carbone déplorable, mais je pense que vu les problématiques écologiques, on ne peut pas prendre aussi souvent l'avion et que si on doit développer des moyens alternatifs comme le train.
Piqué pour aller en Nouvelle-Calédonie.
Oh oui. Là.
Jérôme.
Eh ben, t'as qu'à y aller Jérôme. en pirogue
Capitaine,
comme les Polynésiens.
Capitaine Marty. Non, mais au contraire, il faut développer l'avion pour donner les moyens à l'avion de changer. De passer à l'hydrogène, à l'électrique, j'en sais rien, de changer de carburant, de changer le mode de propulsion des avions, mais on ne pourra pas se passer d'avion, faut être clair. Alors il y a Toulouse aujourd'hui a trouvé un remède contre ça, puisque là moi j'ai appris tout à l'heure qu'on avait changé mon vol de 14h, je devais rentrer à 20h30. Parce qu'il y a une grève imprévue des contrôleurs aériens. Donc là, toute l'après-midi, il n'y aura pas au moins d'avion. Donc ils ont trouvé un petit peu le remède écologique, qui est l'arrêt brut des vols. Mais outre ce fait...
Et pour aller à Toulouse, par exemple,
T'es obligé. Toulouse est enclavé. Alors on nous promet la ligne TGV, ça y est, on est en train enfin de l'obtenir, puisque normalement les travaux commencent, etc. Mais ça fait 30 ans qu'on en entend parler. Donc Toulouse ne bénéficie pas d'une ligne directe et rapide ferroviaire. Ah oui. Donc on a l'avion. Mais en plus... Toulouse, c'est le berceau de l'aviation, c'est Airbus. Donc, la symbolique est très forte. Si tu atteins à cela, tu atteins Toulouse aussi.
Je peux dire un mot sur la ligne.
Il y a deux images. Il y a le stade toulousain et Airbus. On va pas s'attaquer au stade toulousain de la même façon qu'on s'attaque pas à Airbus.
Je peux dire un mot sur la ligne.
Qui gagne,
la ligne.
T'as eu une minute déjà.
Mais sur la ligne TGV de Toulouse.
Oui.
La ligne TGV de Toulouse, c'est l'un des plus beaux cas de suicide politique de l'histoire de la vie politique française, puisqu'en fait, le maire de Toulouse, justement, il soutient ce projet. C'est l'un des derniers maires de droite,
Jean-Luc Moudin,
d'une grande ville, d'une grande métropole. Et le jour où Toulouse sera reliée à Paris par le TGV, ça va complètement changer la population de la ville, comme à Bordeaux, par exemple.
Ouais,
ça va se boboiser et ça va devenir un maire Europe écologique. Les verts, exactement. C'est pas une plaisanterie.
Il joue contre lui.
Bah, donc il devrait chercher à enclaver sa ville au maximum.
C'est là que je vois que tu connais pas Toulouse. Je pense que les gens qui vont venir sur Toulouse.
On débat pas sur Toulouse.
Non, devenir rapidement les Toulousains.
Barbara, et on écoute Julien ensuite au 32-16.
Revenons à nos moutons.
Écoutez,
la question aujourd'hui des vols, bien sûr. À peine, tu as dit 5% de la population mondiale utilise régulièrement. 2 vols sur 3 sont des vols de loisirs. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui relève d'une catégorie socio-professionnelle qui peut vraiment se permettre de faire des grands voyages. Personnellement, je suis pour limiter, pour des raisons environnementales, je suis pour limiter le nombre de trajets, en particulier les moyens courriers, les longs courriers. Je pense que faire un long courrier dans une année, pourquoi pas? Enfin, faire plusieurs longs courriers dans l'année, je trouve ça un peu excessif. Et par ailleurs, c'est aussi tout un rapport qu'on a au monde et à la notion de voyage. Hein, puisque je dis bien que 2 vols sur 3, c'est des vols de loisirs.
Ouais, ouais.
Dans la société de consommation qu'on nous a vendue depuis les années 60-70, où tout est infini, hein, où c'est la perpétuelle recommencement des biens et de l'obsolescence programmée, on s'est dit, le vrai voyage, c'est je prends l'avion. C'est-à-dire que dans l'imaginaire qu'on a construit en Occident, dans les pays occidentaux, si tu ne prends pas l'avion pour faire une longue distance pendant tes vacances, c'est, t'as pas voyagé. Et je pense qu'il faut revenir à ça, c'est-à-dire se poser la question. Est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de m'évader, de regarder la beauté de ce qui est autour de moi, sans pour autant prendre un avion et partir à 10 000 km? Ça veut pas dire qu'un jour je vais pas aller à 10 000 km. J'interdis pas aux gens d'aller en Afrique, au Japon, en Amérique du Sud, c'est pas le problème. Mais peut-être que ça, c'est les voyages, le voyage d'une vie, ou quelques voyages d'une vie. Et le reste du temps, prenez un train et visitez l'Europe. Prenez une voiture et allez en Espagne et regardez, promenez-vous et regardez la beauté de la nature. Est-ce que c'est pas ça un voyage? Est-ce que le voyage, c'est forcément se retrouver agglutiné comme des moutons dans l'avion? Et en plus, si c'est un Boeing, peut-être qu'il va se casser la binette. Donc moi, en plus, j'ai peur en avion. Donc c'est vrai qu'aussi, j'avoue que je suis sur une position de quelqu'un qui a peur en avion. Mais, je considère qu'il faut aussi que les gens reviennent à une forme d'intériorité.
Mais tu ne veux pas pour autant limiter ou tu veux limiter?
Si, je veux limiter parce que je voudrais aussi que les gens... Bah, pour moi, c'est un long courrier par an, pas plus.
D'accord.
Et les moyens courriers, voilà, on les limite au maximum. Ça veut dire donc développer...
Des tickets de rationnement pour
avoir... Non, mais ça veut dire, ça veut dire accélérer
pour la viande,
le ferroviaire partout,
aussi.
Mais aussi essayer de retrouver une intériorité de ce que c'est le voyage.
Julien
le voyage, c'est autre chose.
Julien, technicien dans l'aéronautique, bonjour. Alors, j'imagine que vous êtes plutôt... Vous n'êtes pas dans le camp du non.
Je suis pas dans le camp de ceux qui tapent à longueur de journée sur l'aviation. En fait, faut savoir que l'aviation, c'est le transport actuellement qui permet entre le rapport puissance poids transporté et kilomètres parcourus de faire le plus de choses. D'accord. Donc, à côté de ça, vous avez donc moi je travaille pour une entreprise qui est motoriste aéronautique pour tout ce qui est avion de ligne militaire. Enfin bref, peu importe. Il faut savoir que tous les développements qui sont faits actuellement sont faits vers la décarbonation à bord.
C'est-à-dire que
ça va de la conception à la fabrication, à l'approvisionnement, au type de matériaux, au recyclage, à l'allègement des avions, à l'augmentation des performances. Enfin, faut voir à quel point faut voir la quantité de jus de cerveau qui est mis dans l'aéronautique pour pouvoir avoir un transport qui est, on va dire, pas le pire de tous, parce que si on veut faire un petit comparatif rapide, il suffit d'aller regarder ce qui se passe dans le maritime, et autant vous dire que là, l'aviation, c'est une pipi de chat, quoi.
Bien sûr.
Donc, moi, j'en ai un petit peu assez, parce qu'on a tendance, effectivement, à dire que puis de toute façon, l'avion, c'est le client facile, c'est la victime facile, on tape dessus, comme de toute façon, bon, allez, on n'a pas beaucoup d'entreprises en France qui performent, mais bizarrement, l'aéronautique, c'est ce qui nous reste, mais allez, on va continuer à casser du sucre sur le dos, À un moment donné, moi, j'en ai un peu marre parce que, je vous le dis, en étant à l'intérieur, et c'est pas forcément... Moi, j'ai fait plusieurs types d'industries. J'ai fait de la pétrochimie, du ferroviaire, de l'automobile. L'aéronautique, c'est, à mon sens, la chose la plus vertueuse.
Donc, faisons...
Parce qu'on vante, on vante, par exemple, le ferroviaire. Ce qu'on oublie de calculer sur le ferroviaire, c'est que toute l'artificialisation du sol, les plastiques utilisés, les particules fines, les transports, enfin bref, il n'y a pas de transport qui est vert, ça n'existe pas. Tous les transports polluent.
Donc, Julien, vous dites...
C'est rapport puissance.
Voilà, rapport puissance, faisant confiance aux nouvelles technologies, au progrès, à la recherche. En ce qui concerne l'avion, je vous ai dit, c'était un GG, c'était Match Express.
Là, on vous a pulvérisé, là.
On va voir.
Sans doute, mais c'est pas grave.
Doit-on
limiter... On va parler beauté du voyage.
Pas sûr.
Doit-on limiter nos trajets en avion?
Oui ou non?
Allez, résultat final... Non, 74%.
Le bon sens,
c'est plutôt dans le sens de
Julien. Mais il n'y a pas 74% de Français qui prennent l'avion pour partir en voyage.
Oui, mais c'est pas des jaloux.
Non, c'est pas
une question de jaloux.
Voilà. Ni des rageux.
Suite des GG dans un instant.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.